Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour, le cinéma, miroir des sociétés et outil diplomatique en Afrique du Nord. Nous profitons de l'effervescence sur la croisette à Cannes pour nous évader en Tunisie et en Algérie, où le cinéma d'aujourd'hui permet de raconter le poids de la famille, le courage de la jeunesse. Un cinéma qui s'est joué sur tous les genres, du réalisme le plus brutal au fantastique. Le cinéma comme culture, mais aussi comme secteur économique, comme technique. Et cela dit beaucoup également des sociétés nord-africaines. C'est ce que nous verrons avec nos invités, deux historiens spécialistes du secteur culturel, Kmar Bendana et Alain Messaoudi.
Pas besoin de toi ici, c'est ton père qui t'a placé ici, tu comprends? Tu seras à rien, casse-toi.
Direction Alger tout d'abord, où vit le réalisateur Karim Moussaoui. Son dernier film, L'Effacement, met en scène une jeunesse étouffée. Un film intime et politique, Keira Yahia l'a rencontré.
Nous sommes avec Karim Moussaoui, réalisateur algérien. Nous l'avons connu avec Les Jours d'Avant, moyen métrage qui a été nommé au César. Ensuite, avec son premier long métrage En attendant les hirondelles. Et aujourd'hui, nous le rencontrons à l'occasion de la sortie de son dernier film, adaptation d'un livre, L'Effacement, écrit par un auteur algérien, Samir Toumi.
C'est un livre qui parle d'un jeune homme qui, un matin en se levant, après le décès de son père, il constate la disparition de son reflet dans le miroir. C'est un film qui parle de la perte d'identité, qui parle aussi de la relation intergénérationnelle entre le père et un fils, de la question de la transmission, de l'émancipation des jeunes, en tout cas de ce personnage.
Pourquoi ce sujet vous a touché particulièrement ?
D'un point de vue personnel, la question de l'émancipation des individus est très importante. Pendant longtemps, on vit sous le joug de pensées qui ne sont pas les nôtres. On ne le sait pas tout de suite, on se sent un peu prisonnier. Puis avec le temps, on s'en libère, en tout cas pour ceux qui ont la possibilité de prendre conscience de cela. Et j'avais envie de raconter et de dire à quel point ça peut être difficile et douloureux de vivre avec des valeurs ou des choses qui ne sont pas les nôtres. Et j'avais envie de raconter cette douleur.
Vous en avez fait vous-même l'expérience ?
En quelque sorte, oui. Après, moi, je trouve que d'un point de vue plus personnel, la douleur s'est faite justement par l'impossibilité de suivre le modèle familial et les injonctions familiales. Pour plein de raisons, qui fait que, bon, voilà, j'ai loupé mes études. Et pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais pas à la hauteur de ce qu'on attendait de moi.
Et ça vous a finalement mené au cinéma et maintenant, on regarde vos films.
Tout à fait. Mais ça, je l'ai découvert plus tard parce que tu fais des rencontres, des gens qui ne pensent pas de la même manière. Et qui peuvent te laisser entendre qu'en fait, il y a plein de choses à faire en dehors des recommandations et des injonctions familiales.
Qu'en est-il du personnage principal ?
Reda, ce personnage qui n'a jamais pris le temps de comprendre qui il est. C'est un personnage qui a toujours vécu dans l'ombre de son père et puis qui a toujours bénéficié du pouvoir de son père.
Donc vous avez dit que le personnage arrêtait de voir son reflet dans le miroir, c'est bien ça ?
Il n'a pas arrêté, il a perdu son reflet dans le miroir.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un film fantastique ?
Et c'est pas pour cela que c'est un film fantastique. C'est un élément qu'on ne comprend pas tout de suite. On ne sait pas si c'est réel ou pas, mais je pense qu'on pourrait imaginer que ça se passe uniquement dans la tête du personnage et que cette disparition, elle prend une dimension symbolique. Il n'y a pas que cet élément donc, de la disparition du reflet. On a des séquences d'assassinats, de tueries, de violences avec des armes à feu qui pourraient nous rappeler un certain nombre de films de genre... film policier noir. J'avais envie, tout en posant des questions existentielles du personnage, que le film aussi interroge des choses réelles de la vie. J'avais envie aussi de les aborder à travers un film qui soit totalement libre. J'avais envie de sortir du réalisme que j'avais l'habitude d'employer dans mes précédents films.
Karim Moussaoui avec Keira Yahia, son dernier film, L'Effacement, est en salle actuellement en France. Le cinéma d'Afrique du Nord connaît un renouveau depuis quelques années, en Tunisie notamment. Il y a de plus en plus de films tunisiens sur les écrans et les spectateurs peuvent voir de tout, Film d'auteur, film d'horreur, fantastique, comédie, blockbuster. La production tunisienne n'a jamais été aussi prolixe pour le plus grand bonheur du public, assez jeune. Mais les réalisateurs confient aussi leurs difficultés face au manque de financement. À Tunis, c'est un reportage signé Lilia Blaise.
Tout jatte. Après avoir vu le film Silencium, un huis clos angoissant sur la violence faite aux femmes inspiré d'un vieux fait divers, Rania, 30 ans et jeune médecin, livre son analyse à chaud.
Vraiment bouleversant et choquant. C'est ce qu'il doit être et représenter, puisque la thématique de fond, elle représente l'effondrement patriarcal et les conduits qui détruisent les femmes et tout ce qui est autre que homme cis hétéronormatif. Donc il doit être bouleversant et choquant. Et ce qui m'a touchée, c'est le sens de justice qui n'a pas été validé par des institutions, disons, légales et tout.
Le réalisme est un marqueur fort du cinéma tunisien, qu'il s'agisse d'un thriller ou d'un film comme Les Enfants Rouges de Lotfi
Achou.
Il traite l'histoire réelle de la décapitation d'un jeune berger par des terroristes en 2017.
It's very political,
Mamou a 28 ans, cinéphile, acteur amateur et costumier. Pour lui et ses amis, l'un des plaisirs du cinéma, c'est d'en parler.
Comment lui, il a abordé le sujet qui est très complexe, mais d'une manière très poétique.
La façon dont il fait jouer les enfants, mais sans pour autant nous faire oublier la triste réalité. Il n'a pas idéalisé non plus ce drame, donc j'ai vraiment adoré.
J'ai beaucoup aimé.
Il y a une dizaine d'années, le cinéma tunisien était beaucoup moins riche et il avait moins l'occasion de s'essayer à l'art de la critique.
Cette variété donne envie et cette expérimentation donne envie et ça me fait beaucoup plaisir.
Toute cette diversité, il y a une évolution et ça éveille la conscience du public. On voit émerger un cinéma plus ancré dans la vie, un cinéma social et engagé.
Son ami Aziz voit aussi un message d'espoir dans ce cinéma, même si ses films racontent des histoires ancrées dans une réalité sociale très noire.
Le cinéma tunisien a réussi à s'emparer d'histoires qui n'ont pas été médiatisées ou pas suffisamment débattues dans la société. Dans Les Enfants Rouges, le réalisateur adopte un traitement esthétique, presque documentaire, et en même temps, il raconte une histoire pleine d'espoir pour la jeune génération.
Si le public tunisien est au rendez-vous, faire des films en Tunisie reste compliqué pour les réalisateurs et les producteurs, comme l'explique Nidal Chata, le réalisateur de Silencium.
Nous nous inscrivons dans une temporalité qui est, ça, c'est toujours entre 5 et 10 ans pour faire un film tunisien. Toutefois, s'il est financé intégralement en Tunisie, parce que c'est de plus en plus difficile d'aller chercher des financements extérieurs, d'abord parce que les subventions se rétrécissent comme peau de chagrin, et parce que le périmètre d'octroi des subventions est en train d'augmenter. On voit par exemple Cinéma du Monde, qui était essentiellement centré sur le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne, s'ouvre maintenant aux cinématographies d'Amérique du Sud, de Scandinavie et d'ailleurs, et d'Asie d'ailleurs. Donc moins d'argent, moins de commissions, plus de compétition.
Depuis la France, où elle a installé sa boîte de production Troisième Genre, dédiée au développement de films et documentaires tunisiens, en Tunisie et par la diaspora, la productrice Kawther Hadidi évoque aussi cette dépendance à des fonds extérieurs.
Se tourner vers des financements européens, c'est une dépendance qui a un prix. Elle influence parfois, voire souvent, les récits et les priorités narratives. Beaucoup de projets sont pensés pour séduire les regards extérieurs, pour rentrer dans des cases attendues par les bailleurs ou les festivals internationaux, au risque de produire des œuvres qui séduisent à l'étranger, mais manquent profondément d'authenticité et ne résonnent pas localement ou auprès de la diaspora. Je pense qu'il est urgent de repenser ce déséquilibre et de ne pas céder à la tentation de l'exotisme, de l'orientalisme.
Être basé en France lui permet de démarcher des aides de fonds arabes et européens, tout en négociant pour garder cette authenticité.
Je cherche une proposition de cinéma qui soit à la fois personnelle et socialement située, pas forcément spectaculaire, mais sincère. Je m'intéresse beaucoup au récit de l'intime, là où l'histoire individuelle vient rencontrer des fractures collectives. La mémoire, l'identité, les violences invisibles sont des thématiques qui me touchent profondément parce qu'elles parlent aussi de la complexité d'être entre les deux rives, entre les deux cultures et qui ont un impact sur le public.
Mais malgré la diversité de la production tunisienne, Nidal Chatta estime qu'il n'y a pas encore l'émergence d'une réelle industrie.
Je continue à croire que c'est un cinéma de franc-tireur, que les gens entreprennent un projet, essayent bon an mal an d'avoir le budget minimum pour tourner. Et puis après, on se soucie de la post-production. En tout cas, il y a beaucoup plus de gens qui font des films, et ça c'est plutôt bon signe. Beaucoup plus de jeunes qui se frottent à la réalisation et qui tentent de réaliser. Pour autant, je ne parlerai pas de cinéma tunisien à l'instar des cinémas chinois ou iraniens ou autres.
Comédie romantique.
Non, ça va, merci.
Horreur, thriller, le cinéma tunisien s'essaye de plus en plus à tous les genres, malgré le manque de moyens. Certains succès en salle sont tels qu'ils ont été déclinés en feuilleton du Ramadan, comme Sahbek Rajal. Les films de genre, eux, trouvent une vraie reconnaissance à l'international, comme Les Enfants Rouges de Lotfi Achour et Aïcha de Mahdi Barsawi, primés dans de nombreux festivals cette année.
Et c'est d'ailleurs un film tunisien, Promis le ciel, qui a fait l'ouverture cette semaine de la sélection Un certain regard au Festival de Cannes.
Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia.
Alléluia.
Comme ça, on va bien s'occuper de toi.
Bonjour Kumar Bendana.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de la Manouba en Tunisie. Et avec nous également, oui. Alain Messaoudi, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence en histoire contemporaine à Nantes Université dans l'ouest de la France. Pour parler de cinéma, pour parler plus largement de culture, Kumar Bendana, je sais que vous aimez particulièrement regarder la Tunisie à travers le cinéma, pas un film ne vous échappe.
En tout cas, j'essaye. Mais c'est vrai que dans mon amour du cinéma, je ne suis pas sélective. J'essaie de voir un peu tout ce qui se produit dans le monde du cinéma. Et ce que je remarque justement en ce moment, c'est qu'il y a une... Avant, il y avait une sorte de production populaire à la télévision. Maintenant, il y a une production populaire pour le cinéma. Alors, à travers aussi une distribution de la télévision, ça veut dire que les structures de production sont en train de changer. Mais moi, je vais au cinéma pour aller voir un film pour faire rire ou une comédie, etc. Je ne suis pas toujours à la recherche des films de cinéphiles, comme on dit. Voilà, j'ai une curiosité un peu à tout va.
Pour y chercher quoi? Les Tunisiens d'aujourd'hui, ce que c'est qu'être un Tunisien?
Vous savez, il y a 5 écoles de cinéma en Tunisie. C'est un terrain très fertile. La jeunesse tunisienne est un terrain très fertile pour la technicité cinématographique. Ce sont des techniciens qui sont très appréciés, qui en général s'expatrient beaucoup maintenant dans les pays du Golfe et aussi au Liban, en Égypte, etc., à cause de leur technicité. Donc voilà, ça me fait voir un peu la Tunisie et la fabrication du cinéma comme une sorte de secteur qui dit beaucoup de choses sur la société, sur la jeunesse. Comment est-ce que le cinéma comme culture, comme savoir, comme technique, comme production, etc., aujourd'hui montre beaucoup d'aspects de la Tunisie actuelle et de son insertion aussi, à la fois régionalement, et ce que ça peut dire de la société, mais ce que ça peut dire au monde.
Alain Messaoudi, vous avez dirigé un livre qui s'appelle « Action et diplomatie culturelle dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient ». C'est un formidable outil de rayonnement, le cinéma, mais peut-être plus largement la culture.
Oui, il peut y avoir un usage politique du cinéma par les États et par les administrations, très clairement, que ce soit du côté du Nord, du côté européen ou du côté des États maghrébins, pour le coup. Et aujourd'hui, où le cinéma n'est plus simplement diffusé à travers les salles obscures, mais beaucoup plus largement à travers d'autres médias, la salle de cinéma ou le centre culturel reste encore, je pense, un outil de légitimation, quelque chose qui symboliquement reste fort et donc qui permet aussi d'avoir des représentations des sociétés du Maghreb et des questions que posent aussi les réalisateurs. Certaines œuvres donnent des clés de compréhension des sociétés. Je pense à Nouri Bouzide pour ce qui est de la Tunisie pour les années 1980-1990, mais aussi bien sûr des jeunes cinéastes contemporains.
Kumar Bendana, vous regardez du cinéma tunisien. Est-ce que vous vous intéressez au cinéma des autres pays d'Afrique du Nord ?
Oui, j'aime beaucoup le cinéma algérien. Je commence à le connaître parce qu'il y a beaucoup plus d'échanges aujourd'hui, qu'il y a une sorte de cinéphilie maghrébine aussi qui construit des circuits, qui construit aussi des manières un peu d'échanger. On sait qu'en Algérie, maintenant, il y a toute une dynamique, si vous voulez, une créativité assez particulière et très attirante, il dit beaucoup de choses aussi, des choses différentes de la Tunisie. Et voilà, ça permet aussi de voir les différences entre les pays alors qu'ils sont proches et voisins et qu'on a tendance à les confondre vu de loin.
Qu'est-ce que vous voyez comme grande différence, comme grand mouvement aujourd'hui émergé dans ces cinémas algériens et tunisiens, pour ne prendre que ces deux exemples-là?
La première idée qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, en Tunisie, il y a un cinéma local. C'est-à-dire qu'il se produit localement, dans tous les sens du terme. Alors qu'en Algérie, ce que je remarque, c'est souvent aussi un cinéma qui vient d'Algériens qui vivent ailleurs. Ça me semble être quelque chose de très différent, qui dit beaucoup sur les structures de production, qui dit beaucoup sur les liens politiques. Effectivement, on a pris l'habitude en Tunisie d'encourager le cinéma parce que c'est une vitrine de la Tunisie. Et donc, d'une certaine façon, depuis quelques décennies, depuis Ben Ali à peu près, même la censure était un peu plus clémente pour laisser le cinéma montrer quand même l'image d'un pays pas sous le boisseau, si vous voulez.
Et je dirais depuis longtemps avec le Festival de Carthage. Donc l'État, en fait, porte ce festival comme étant quelque chose qui montre que Tunis ou que la Tunisie peut être, disons, un pôle culturel à une échelle africaine, d'ailleurs.
Tout à fait. Le pouvoir politique au Maroc aussi encourage le cinéma, un peu comme pour la Tunisie. Alors qu'en Algérie, c'est vraiment une autre équation. C'est vraiment un cinéma à la fois de résistance qui se fait ailleurs avec des Algériens qui peuvent travailler avec des Algériens d'Algérie, si vous voulez, mais qui aussi s'imposent de plus loin, en tout cas de la diaspora souvent française.
Alors même qu'il y a une cinémathèque d'Alger, en tout cas qui a été très longtemps particulièrement importante et vivante. Oui.
On voit qu'il y a une vraie volonté politique, un vrai discours politique à travers le cinéma, les enjeux sociaux, la vie des sociétés, c'est tout de même ça qui attire les gens.
Non, plus que ça, il y a des affinités et une intelligence de production là-dessus, et une intelligence des attentes du public qui fait que cette rencontre entre ces deux phénomènes donne une production, j'allais dire, autonome et une véritable dynamique cinématographique qui est propre à la région.
Est-ce que ça concerne tous les champs de la culture, ou alors vraiment c'est spécifique au cinéma, à la série, à l'audiovisuel?
C'est spécifique à l'audiovisuel, mais ce n'est pas exclusif, parce que je vois toute proportion gardée, sur la littérature aussi, un nouveau marché, dans la peinture aussi, c'est des choses beaucoup plus faibles et qui sont beaucoup moins enracinées dans la société, parce que c'est des choses qui parlent moins au grand public, si vous voulez. Mais je vois des phénomènes similaires, oui, il y a une sorte de déplacement un peu des axes de production.
Alain Messaoudi, vous voyez aussi ces phénomènes, cette dynamique, cette scène culturelle en Afrique du Nord qui est particulièrement dynamique aujourd'hui ?
Pour ce qui est de la Tunisie et peut-être aussi de l'Algérie, il y a des moments, en particulier après l'épisode de la Révolution en 2011, je pense qu'en fait il y a un intérêt qui dépasse vraiment les frontières et donc aussi pas mal de circulation, qui sans doute avec la crise du Covid, quelque chose qui s'est un peu cassé, disons, mais derrière les cassures, des liens qui ne sont pas morts en fait, qui peuvent aussi sans doute ressurgir et quand on ne les attend pas trop. Alors après, sur les questions de coproduction et d'interaction économique, des productions en fait avec des acteurs qui se trouvent de part et d'autre de la Méditerranée, sans doute.
Kmar Bendana, une dernière question. Un film que vous conseilleriez en ce moment, qui serait une réussite économique et qui serait aussi quelque chose qui, à vos yeux de spectatrice, hein, mérite d'être vu pour avoir une idée de la Tunisie actuelle?
Écoutez, je vais parler avec mon cœur et mon goût. Par exemple, il y a un film tunisien qui s'appelle Le Pont, El Kantara, qui est un film coproduit par la Tunisie et la France, d'un réalisateur qui s'appelle Walid Matar, et qui est une très très jolie comédie qui parle de la drogue dans les milieux de la jeunesse aussi, mais d'une façon à la fois très plaisante et très comique, mais en même temps très profonde sur le temps, sur l'illusion du bien-être ou de la richesse, etc., et qui peut parler à toutes les jeunesses du monde.
Kmar Bendana, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de la Manouba à Tunis, Alain Messaoudi, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Nantes. Je vous rappelle le titre du livre qu'il a dirigé en compagnie de Luc Chantre et de Kaïna Mazari, « Action et diplomatie culturelle dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient », c'est aux presses universitaires de Rennes. Carrefour du Maghreb, à la réalisation Françoise Grelot. À bientôt.